Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Je sais que c'est comme tous les prédicateurs invités vont dire ça, là. Mais quand Paul m'a écrit pour savoir si je voulais venir, ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, j'aurais préféré qu'il soit là, mais on ne peut pas tout avoir. Ce matin, la prédication, je vous inviterai à tourner dans le livre d'Habacuc. On va exposer le livre d'Habacuc. Pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec l'emplacement d'Habacuc, c'est entre Nahum et Sophonie. On va regarder l'entièreté du livre d'Habacuc ce matin. Et le thème du livre d'Habacuc, comme est écrit dans plusieurs bibles d'études avec les commentaires, le thème principal qui ressort, c'est de vivre par la foi. Mais si je vous pose la question, avant que je vous donne la réponse, qu'est-ce que vivre par la foi? Est-ce que c'est une insouciance? Est-ce que c'est une insouciance dans le sens vaut mieux pas être conscient, pas être heureux? Une résignation passive du genre bon, ben, il arrivera ce qui arrivera, puis c'est tout, puis on continue. Ou encore, vivre par la foi, est-ce que ça veut dire de ne jamais faire de plan pour le futur? De ne jamais d'être un peu insouciant dans le sens de dire, mais Dieu va pourvoir, puis j'ai pas besoin de me soucier de ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est de vivre par la foi? Mais Habacuc est un bon exemple de c'est quoi vivre par la foi. Avant qu'on saute dans le livre d'Habacuc, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu le contexte, puis j'ai quelques petites explications à vous donner aussi, parce que le livre d'Habacuc, c'est pas un livre qui est facile à lire pour quelqu'un en 2026. Il y a des thèmes qui sont difficiles. Même en fait, tout le livre est quand même assez lourd et difficile, sauf les quatre derniers versets. Donc, on va essayer de passer le plus de temps possible sur les quatre derniers versets, mais on va regarder le livre au complet parce que, dans son infinie sagesse, l'Éternel nous a donné le livre au complet. Donc, on va regarder le livre au complet. Habacuc a été prophète environ 600 avant Jésus-Christ. Pendant le règne de Joachim, qu'on peut voir dans 2 Rois 23 ou dans 2 Chroniques 36, qui était un mauvais roi. Le roi Joachim était comme les autres rois qui étaient avant lui et qui vont aller après lui dans l'époque après. Là, on est bien après David, là. On est comme dans l'époque de la déportation puis tout ça. Fait que Joachim était un mauvais roi qui amenait le peuple dans l'immoralité, prenait des choix, des mauvais choix, qui avait des impacts sur le restant du peuple. La particularité du livre d'Habacuc comparativement aux autres petits prophètes, c'est que le prophète s'adresse à Dieu et intercède de la part du peuple plutôt que le prophète s'adresse au peuple et intercède de la part de Dieu. Généralement, les prophètes, leur travail, c'est ça, c'est le ministère de la prophétie. C'est de dire, voici ce que dit l'Éternel. Mais Habacuc, dans son livre, ne fait pas ça. Je suis persuadé que dans la vraie vie, il l'a fait, là, mais c'est juste qu'on ne le voit pas dans le livre. Dans le livre d'Habacuc, ce qu'on voit, c'est un dialogue entre le prophète et son Dieu. Un petit résumé rapide. Habacuc, on peut le diviser en cinq parties. Première complainte. Parce qu'Habacuc va faire des complaintes devant l'Éternel. Première complainte, première réponse de l'Éternel. Deuxième complainte, deuxième réponse de l'Éternel. Et le livre se termine par le chapitre 3 qui est un cantique, le cantique d'Habacuc. On va voir Habacuc qui va faire des complaintes à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'une complainte versus un chiolage, par exemple? Parce que ce que Habacuc fait devant l'Éternel, c'est pas mal. Mais souvent, on a la tendance de dire, mais on ne doit jamais se plaindre, on ne doit pas se plaindre, on ne doit pas chialer, on doit accepter tout ça. Mais Habacuc, lui, il va se plaindre. Mais de la bonne façon. Maintenant, c'est quoi la bonne façon de se plaindre? Parce qu'on va voir que Habacuc va chercher à réconcilier ce qu'il observe dans sa nation avec les plans de Dieu. Il ne cherche pas à accuser Dieu ou à le reprendre. Hein, on a plusieurs psaumes dans les Écritures qui Psaume 130, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. On a plusieurs psaumes qui sont même son cantique jusqu'à quand, ô Éternel. C'est un thème qui revient parce que c'est quelque chose qui est adéquat d'exprimer devant l'Éternel. Il affirme des vérités sur Dieu et son caractère et cherche à réconcilier ce qu'il observe avec qui Dieu est. Une protestation ou une plainte remplie de péché serait plutôt d'accuser Dieu ou nier ses attributs à cause de nos observations. Dieu, tu n'es pas amour parce que. Dieu, tu n'es pas tout-puissant parce que. Dieu, tu n'es pas souverain parce que. Ça, c'est une plainte emplie de péché. La complainte du juste, comme on va voir Habacuc, c'est plutôt une complainte qui cherche à comprendre sans accuser ou reprendre Dieu. Hein? Qu'est-ce que l'homme pour reprendre l'Éternel? Donc, on va lire le livre au complet, par section, pas tout d'un coup. On va lire le livre au complet ce matin parce que j'aime beaucoup qu'on puisse lire le texte, l'expliquer, l'appliquer. Donc, ça va être le format qu'on va faire ce matin en 5 parties, comme je l'ai dit plus tôt. Première complainte, première réponse, deuxième complainte, deuxième réponse. Et on va terminer par probablement mon chapitre préféré des Écritures, qui est le Cantique d'Habacuc. Je vous invite à tourner chapitre 1, verset 1. On va lire jusqu'au verset 4. Oracle révélé à Habacuc le prophète. « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Dans sa première complainte, Habacuc va faire un état des faits. Ça, c'est ce que Habacuc regarde et constate quand il regarde sa nation, ses contemporains, son gouvernement. Une injustice et une iniquité parmi le peuple et leurs conséquences. Parce que agir de façon injuste, agir avec comme seul désir de faire ce que notre cœur désire, ça a des conséquences. Et ces conséquences-là ont des répercussions sur l'ensemble de la nation d'Israël. La violence, que Habacuc utilise, les synonymes, ça pourrait être un outrage, un pillage, une injustice ou une cruauté. L'iniquité du peuple qui est question ici à cette époque-là, c'est de l'idolâtrie, de la débauche. Et l'oppression que Habacuc mentionne peut être aussi traduit par destruction ou ravage. Même qu'Habacuc va dire « la loi de Dieu est ignorée hein? ». On voit ici « la loi n'a-t-elle point de vie ?» Comme si la loi était morte dans son peuple. La justice est bafouée, les juges sont corrompus, et le méchant triomphe du juste. La loi de Dieu est ignorée. On parle ici du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu la conquête, qui ont vu l'époque des juges, qui ont vu David, qui ont vu Salomon. Et puis là, on arrive ici et la justice de Dieu et sa loi est sans vie, sans efficacité parce qu'elle est ignorée dans la nation. Les gens agissent comme s'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Comment on peut en arriver là? En oubliant. Si on regarde le livre des juges, le cycle est le même. C'est le cycle de notre cœur aussi, c'est pas seulement le peuple d'Israël. Hein? On oublie, on abandonne, puis après ça, il vient ses conséquences. Habacuc, dans sa complainte, comme je l'ai dit, est la complainte du juste, dans un sens, une expression que j'utilise pour dire que c'est une complainte qui est faite de la bonne façon. Il est affligé. Il va exprimer son cœur devant l'Éternel en disant « Jusqu'à quand, Ô Éternel. Quand on regarde autour de nous, puis qu'on s'attarde, je vais juste prendre un sujet précis qui m'afflige beaucoup, c'est le nombre de bébés qui sont tués dans le sein de leur mère. C'est atroce. Mais jusqu'à quand, Éternel, tu vas permettre ça? Mais Habacuc voit toutes ces choses-là qui se passent dans sa nation, puis il dit à Dieu, il dit, jusqu'à quand tu vas laisser ça? Pourquoi? Jusqu'à quand, ô Éternel? On voit même qu'Habacuc a crié, verset 3, pourquoi Dieu semble absent et sa loi sans vie, engourdie, sans influence? J'aimerais vous rassurer que le livre d'Habacuc termine très bien. Hein, le dernier passage est toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc, on va y arriver. Ça, c'est le spoiler. La fin de la prédication va être là-dessus. On ne sera pas tout le long dans des complaintes. Mais pour arriver à apprécier la dernière portion du livre d'Habacuc dans toute sa, avec toute sa saveur, mais il faut qu'on se mette dans le contexte. De la même façon qu'un jet bleu sur un tableau bleu, ça reste un jet bleu sur un tableau bleu. Mais un jet bleu dans une forêt d'hiver qui est grise et blanche, ça ressort beaucoup. Le contraste est là. On peut apprécier la couleur dans sa valeur, dans sa saveur, parce qu'il y a un contraste. Mais c'est ça qu'on va faire en explorant le livre d'Habacuc au complet. Après sa première complainte, Habacuc reçoit la première réponse de l'Éternel, versets 5 à 11. On va les lire. L'Éternel répond à Habacuc en lui disant, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et les cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Tout ce peuple qui vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. La première réponse de l'Éternel. Peux juste descendre ça un petit peu. La première réponse de l'Éternel, dans mon cœur à moi, suscite plus de questions que j'en avais initialement. Parce que ce que l'Éternel dit là, c'est dur. C'est pas bonbon. Pourtant, c'est le même Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on comprend ça à la lumière de qui Dieu est et à la lumière de l'Évangile? Parce que ce n'est pas facile. L'Éternel dit les Chaldéens, qui sont en passant les Babyloniens. Il y a une notion de surprise ici. Les Babyloniens vont venir parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas encore la force du Moyen-Orient. Ils vont renverser tranquillement la Syrie pour prendre Babylone et s'établir et ravager même jusqu'en Israël. Mais ce n'est pas encore comme ça. Donc, il y a une notion de surprise. Dieu dit, soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Parce qu'il n'y avait pas TVA Nouvelle en 600 avant Jésus-Christ. Donc, c'était très difficile de savoir qu'il y avait une force montante qui allait renverser la force actuelle pour prendre sa place. Et les Babyloniens sont un peuple puissant qui ont une soif de conquête. Prenons juste le temps d'analyser deux concepts, celui du pillage. C'est facile de passer vite par-dessus le principe du pillage. Mais imaginez une force qui arrive ici, nous envahit et se met à piller nos maisons. Qu'est-ce que ça fait des soldats qui pillent des maisons? Ça fait plein de choses qu'on ne veut pas subir. Les soldats sont là et ils font ce qu'ils veulent parce que c'est eux la force. C'est eux qui ont l'épée. C'est eux qui ont gagné. Ces soldats-là prennent les jeunes femmes, les amènent, en font des prisonniers. Prennent les fils, les amènent, font des prisonniers. Prennent ce qu'il y a le plus beau dans les maisons, partent avec. Le pillage, ce n'est pas une chose. Quand on prend le temps de s'attarder à qu'est-ce que le pillage est, c'est absolument terrifiant et terrible. Et Dieu dit, les Babyloniens, les Chaldéens vont venir, puis ils vont faire ça. Ils amoncellent des prisonniers comme le sable. Ça, là, ça veut dire qu'ils prennent les gens et en font des esclaves pour probablement le restant de leur vie, pour probablement faire des affaires qui sont vraiment pas le fun. J'ai pas besoin de faire un dessin de qu'est-ce qui se passe quand des soldats arrivent et décident de faire des esclaves de jeunes filles. C'est ça que les Babyloniens s'en viennent faire. Habacuc reçoit ça, reçoit ce message-là. Dieu termine en disant son Dieu à lui, c'est sa propre force. Un peuple qui est imbu de lui-même. Hein? Verset 7, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun égard au droit des autres. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Sa force à lui, voilà son Dieu. Il se rend coupable. Ce morceau-là est important. Il se rend coupable. On va y revenir plus loin parce que Dieu, il revient plus loin dans le livre d'Habacuc. Maintenant, comment est-ce qu'on réconcilie ça avec notre lecture en 2026? Comment est-ce qu'on réconcilie ça avec le Dieu qu'on connaît, qu'on chante? Mais premièrement, la souveraineté de Dieu est un concept qui est extrêmement important pour interpréter un passage comme celui-ci. Rien n'échappe à son contrôle. Verset 5, « Je vais ». Dieu contrôle les puissances de ce monde. Rien ne le surprend ou ne lui échappe. C'est lui qui châtie son peuple idolâtre par la main des Babyloniens. Moi, quand je lis un passage comme ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre comment l'Éternel peut faire quelque chose comme ça. Comme Habacuc, d'ailleurs. La réponse de l'Éternel suscite encore plus de questions. Ésaïe 55, verset 8, l'Éternel va dire à son prophète, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Dit, « Je suis. » Ce n'est pas celui qui était et celui qui sera, celui qui est, l'Éternel. Habacuc, dans sa deuxième complainte, exprime une foi confuse et affligée, qui est, à mon avis, la réaction de tout le monde qui entend cette prophétie-là. On ne peut pas faire autrement que d'être confus et affligé. C'est des choses absolument terribles. Verset 12. « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas! » Oh, Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Ainsi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Habacuc est confus et affligé. Pourquoi? Comment est-ce possible? Sommes-nous pas ton peuple, Éternel? Et pourtant, Habacuc va faire quelque chose qui démontre, encore une fois, que sa complainte est celle du juste et que Habacuc vit par la foi. Il va dire, verset 12, « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Habacuc exprime une confiance dans son Dieu, malgré sa confusion, malgré son affliction. Il y a aussi confiance dans la délivrance. Quand il dit « Nous ne mourrons pas », il dit « On est ton peuple », ça veut dire qu'on va passer au travail. Puis après ça, il exprime sa confiance dans les jugements de Dieu. Confiance que même si le monde entier a changé, l'Éternel n'a pas changé. Verset 13, Habacuc va dire, comment un Dieu juste parfait peut-il rester sans rien faire? Le prophète veut comprendre, cherche à réconcilier ses observations avec les plans de Dieu, tout en affirmant les attributs de Dieu qui semblent incompatibles. Habacuc n'est pas en train de remettre en question les attributs de Dieu, c'est-à-dire qui Dieu est, à cause de ce qu'il observe. Au contraire, il les affirme et place sa confiance dans ça. Habacuc n'est pas en train d'essayer de réduire Dieu à ses pensées, mais Habacuc demande à Dieu de l'éclairer pour comprendre ce que Dieu fait. C'est ce qui fait la différence entre une plainte et une complainte du juste. C'est que Habacuc ne cherche pas à conformer Dieu à ses désirs et à ses pensées. Il demande à Dieu à conformer ses pensées à celles de l'Éternel. Versets 13 à 17, Habacuc donne un exemple avec les poissons. J'ai entendu une belle illustration qui résume un peu qu'est-ce que Habacuc dit là. C'est que le peuple est vulnérable. Il ne peut absolument rien faire contre ceux qui vont venir. De la même façon qu'en anglais, on a l'expression « shooting fish in a barrel » parce que le poisson peut aller nulle part. C'est comme impossible de le manquer. Puis en plus de ça, Habacuc dit « on va être un sujet de moquerie ». Un peu comme s'il disait « sur le dos de ton peuple, le peuple avec lequel tu as fait une alliance, les méchants vont s'enrichir. Et non seulement ils vont s'enrichir, mais ils vont être dans la joie de s'enrichir sur notre dos. Et en plus de ça, ils vont faire des sacrifices à leur faux Dieu et à leur filet parce qu'il leur a apporté l'abondance. » Une autre chose qui démontre que Habacuc a une bonne attitude. C'est le verset 1 du chapitre 2, juste avant la deuxième réponse de l'Éternel. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Habacuc attend la réponse de l'Éternel. Il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il ne cherche pas à enseigner Dieu sur comment Dieu devrait agir. Habacuc attend la réponse de l'Éternel. Qui va venir? Verset 2. du chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » La référence aux tablettes ici, c'est que Dieu demande à Habacuc d'écrire la prophétie pour qu'elle soit publique, qu'elle soit publiée. Donc, Habacuc comprend pas, exprime devant l'Éternel toutes les choses terribles qui vont se passer. Puis Dieu lui dit, la prophétie, le temps est fixe. Écris-le, publie-le, partage-le, parce que ça va arriver. Si ça n'arrive pas, attends, ça s'en vient. Ça va arriver certainement. Ce n'est pas le genre de réponse qu'on aime avoir. Mais c'est la réponse que Dieu a donnée à son prophète. Ensuite, dans les versets 5 à 20, Dieu va mettre devant Habacuc deux voies différentes. La voie du pécheur, puis la voie du juste. On ne lira pas tous les versets, mais on va lire les versets 18 à 20. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. La voie du juste, c'est de vivre par la foi, comme on a vu au verset 2, au verset 4 du chapitre 2. Ce verset-là a été cité dans le Nouveau Testament à au moins 3 reprises. Donc, on peut utiliser ces citations-là pour nous aider à comprendre comment Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux expliquent c'est quoi vivre par la foi. Romains 1, 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Galates 3, 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Quand l'Éternel dit à Habacuc, « Mais le juste vivra par sa foi », c'est exactement ce que Habacuc avait besoin d'entendre. C'est la réponse que Habacuc attendait. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Mais le juste vivra par sa foi. C'est que la foi, c'est ce qui nous justifie à salut. C'est par la foi qu'on a cette espérance-là. Par la foi en Jésus, par la foi dans notre Sauveur, qu'on a cette espérance-là qu'un jour, il n'y aura plus de pillage, il n'y aura plus de prisonniers, il n'y aura plus d'envahisseurs. Il va y avoir l'Éternel présent dans sa perfection et son peuple dans sa présence. C'est par la foi qu'on a cette espérance-là. C'est aussi par la foi qu'on persévère jusqu'à la fin, en dépit des circonstances. Vivre par la foi, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous fait persévérer. Et la voix du méchant, lui, a foi en lui-même. On l'a vu plus tôt, sa force à lui, voilà son Dieu. La voix du méchant, c'est une voix qui donne l'illusion de la victoire, mais qui, au final, s'avère être de l'autodestruction. Verset 10 du chapitre 2. « C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. » L'Éternel parle à Babylone. Verset 16. « Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. » Verset 18. « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? » La voix du méchant peut donner l'illusion de la victoire. Hein? Parce que le méchant gagne dans cette prophétie-là. Gagne, entre guillemets. C'est lui qui va conquérir. C'est lui qui va gagner la bataille. C'est une illusion de victoire. Parce que le méchant, quand il fait ça, il place sa foi en lui-même, en ses faux dieux, pour sa propre destruction. Mais le juste place sa foi en Dieu, marche avec son Dieu, dans l'espérance d'être avec son Dieu pour l'éternité. Le chapitre 3, le cantique de Habacuc, on peut aussi l'appeler « Vivre par la foi ». C'est selon moi, comment Habacuc nous enseigne, nous, aujourd'hui, comment il a vécu par la foi en ces temps-là. Donc, on va le lire au complet. On va le lire jusqu'au verset 17. Donc, attelez-vous. C'est un cantique sur la mode des complaintes. C'est un cantique en contexte de ce que Habacuc vient de se faire révéler, mais on va terminer sur les deux derniers versets qui lasseraient sur le Sunday. Donc, oui, le cantique est lourd, mais tout ça fait tout son sens quand on arrive à la fin. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaints. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans la colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Le verset 2, il dit, « J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. » Je ne pense pas ce que Habacuc exagère, même au contraire. Ensuite, il dit, « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Mets dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Ça, c'est l'attitude d'un prophète qui a foi en Dieu. Ce n'est pas une résignation passive ou ce qui essaie d'oublier les circonstances, puis de juste regarder en avant, vision tunnel, puis tout ça. Non, non, Habacuc est très, très au courant de ce qui s'en vient. Et pourtant, il dit à Dieu, « J'ai confiance dans ton plan. Fais ton plan. Ça me fait peur, ô Éternel. Mais accomplis tes œuvres. Mais souviens-toi de tes compassions. » Ensuite, Habacuc va faire une ode, si on peut dire comme ça, à la grandeur de Dieu. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et dans l'épouvante, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêteront dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de tes lances qui brillent. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Habacuc exprime une confiance, une soumission et une foi qui me dépasse. Dans son attente en silence du jour de la détresse et de l'oppresseur, Habacuc prend le temps d'écrire sur la grandeur de Dieu, sur la beauté de ses œuvres, sur sa toute-puissance. La réaction d'Habacuc au verset 16 à 19, on arrive au dernier point, la cerise sur le sundae. J'ai entendu, mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent et mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Il y a une escalade de gravité ici que je trouve intéressante à noter. Comme c'est un cantique, c'est de la poésie. Et je trouvais intéressant de noter qu'il y a une escalade ici. On commence par « le figuier ne fleurira pas ». Les figues, ce n'est pas un essentiel, mais c'est très agréable à avoir. « La vigne ne produira rien », c'était considéré comme un essentiel. « Le fruit de l'olivier manquera », ça aussi, c'était un essentiel. Les champs ne donneront pas de nourriture. Là, on commence à être dans le trouble. Les brebis disparaîtront du pâturage. Pas de laine, pas de viande. Il n'y aura pas de bœuf dans les étables. C'est l'équivalent de dire on n'aura plus de tracteur pour travailler les champs. Il n'y aura plus de bœuf non plus à manger. Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel. Habacuc ici n'exprime pas une foi pessimiste ou résignation passive de vision tunnel. Habacuc comprend exactement ce qui va se passer. Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel. Frères et sœurs, vivre par la foi, c'est exactement ça. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, pas en autre chose. Puis Habacuc dit ça en toute connaissance des circonstances qui l'attendent. Se réjouir en dépit des circonstances, c'est un thème qu'on retrouve ailleurs dans les Écritures. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a un beau parallèle ici. Je veux me réjouir en l'Éternel. Hein? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui semble aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, ce que Paul exprime là, c'est la partie de « je veux me réjouir en l'Éternel ». C'est ça, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est en mettant dans nos pensées tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, qui est juste, qui est aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. En mettant ça dans nos pensées, de façon active, en mettant ça dans nos pensées, c'est comme ça qu'on « je veux me réjouir en l'Éternel ». En faisant connaître nos besoins, en faisant connaître à l'Éternel nos sentiments aussi. Ce n'est pas péché de faire connaître à l'Éternel nos sentiments. Si nos sentiments ne cherchent pas à rabaisser Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une bénédiction quand quelque chose nous pousse au pied de la croix. Parce que c'est là que nos cœurs et nos pensées sont en Jésus-Christ. Charles Spurgeon, le grand prédicateur, disait que tout ce qui nous pousse au pied de la croix devrait être considéré comme une grande bénédiction dans nos vies. Je ne peux pas faire autrement que de penser à Yolande, à l'église de Rouen, qui un jour s'est levée, a prié, et a dit ceci, mot pour mot, très simplement, « Merci Seigneur pour mon cancer. Sans le cancer, je ne t'aurais jamais cherché. » Bien, on se demande pourquoi est-ce que Dieu permet les Chaldéens et les Babyloniens. Mais parce que ça, ultimement, ça va ramener son peuple à lui. Philippiens 3:8 nous dit « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ici, Paul, il parle de son zèle de pharisien, de tous ses accomplissements religieux. Maintenant, il regarde tout ça comme de la boue, parce que ce qui est le plus important, c'est de connaître Jésus-Christ. Michée 7 nous dit, versets 7 à 8, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Habacuc cherche à se réjouir dans l'Éternel parce que c'est ça, vivre par la foi. se réjouir dans notre espérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai tendance à me lasser rapidement. J'ai besoin de nouveau. Puis à un moment donné, c'est comme la vieille affaire. C'est comme, ben oui, mais on est sauvé, on va aller au ciel. Mais oui, c'est correct. Là, tu sais, mais ça, là, c'est un poison qui envahit nos cœurs. Parce que quand on perd cette vision, cette espérance-là, la beauté de notre salut, bien, on perd beaucoup de saveur. On perd une grande partie de l'essentiel. Habacuc cherchait à faire ça. Quand il dit « je veux me réjouir », ce n'est pas « je me réjouis ». Je veux me réjouir. Comme le verset qui dit « fais de l'Éternel tes délices ». C'est un impératif. « Fais de l'Éternel tes délices ». Se réjouir dans l'Éternel, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Parce que notre cœur humain cherche à se réjouir dans toutes sortes d'autres choses. Puis ces choses-là sont fragiles. Ces choses-là dépendent de beaucoup de choses. Si Habacuc cherchait à se réjouir dans sa nation, dans sa sécurité militaire, sa sécurité financière, dans son poste de travail, son gouvernement, peu importe, il aurait été déçu parce que les Babyloniens s'en viennent. Qu'est-ce qu'Habacuc a fait? A cherché à se réjouir dans la seule chose qui ne changera jamais, l'Éternel. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que ça change pour moi? En 2026, qu'est-ce que le livre d'Habacuc change dans ma vie, demain matin au travail? J'ai ressorti quatre choses qui, pour moi, ont changé. Je vous partage mes conclusions sur le livre d'Habacuc. Peu importe ce que les gens autour vont essayer de te vendre, la paix qui surpasse toute intelligence ne s'obtient pas par des contrefaçons. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Peu importe ce que le monde va essayer de vous vendre, la paix et la joie qui surpassent toute intelligence ne s'obtient pas par des contrefaçons. La confiance d'Habacuc ne repose pas sur une hygiène de vie équilibrée, dans son fonds de pension, son gouvernement, dans sa santé ou ses propres capacités à affronter l'épreuve, parce qu'il serait bien déçu. Qu'est-ce que ça change pour moi? Ça me rappelle l'importance de cultiver cette relation-là avec mon Dieu. On est dans une belle saison pour se rappeler que si on ne met pas une bûche dans le poêle, il fait froid rapidement. Mais c'est comme ça dans nos relations, que ce soit avec les autres autour ou que ce soit avec Dieu. Si on ne met pas une bûche dans le poêle, il va faire froid rapidement. C'est la même chose avec l'Éternel. Si on veut être capable de se réjouir dans l'Éternel, mais qu'on ne cherche pas à avoir une relation avec l'Éternel, qu'on ne cherche pas à connaître l'Éternel, qu'on ne cherche pas à ressembler à notre Sauveur, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Hein? C'est plus facile ranimer un feu qui est déjà là que de partir à zéro. C'est important de cultiver cette relation-là avec notre Dieu. Parce que quand l'épreuve va arriver, s'il manque de courant, tu es content d'avoir un poêle à bois qui chauffe. Mais quand l'épreuve arrive, puis que tout le restant sur lequel on se fie coupe, mais on va être content d'avoir notre Dieu de notre côté. Parce que c'est comme ça qu'on va persévérer. Une autre chose, c'est l'importance de cultiver l'émerveillement vis-à-vis notre espérance éternelle. Pour moi, c'est difficile de cultiver cette espérance-là, parce que j'ai l'impression des fois que c'est comme machinal, puis que je me force à m'exalter. Puis je suis un homme mécanicien, là. Moi, là, m'exalter, c'est pas la fois que j'ai le plus de facilité à faire, là. Mais c'est important de cultiver cet émerveillement-là devant notre salut, devant notre espérance, Parce que c'est ça qui va nous donner le zèle, la motivation d'avancer. Comment est-ce que moi je fais pour me cultiver mon émerveillement devant mon salut puis mon espérance? Il y a mille et une façons. Moi, ce que j'aime faire, c'est les psaumes. Les psaumes sont pour moi une source de bénédiction. Étant musicien, j'apprécie aussi beaucoup la musique. Des bons chants. Je ne suis pas quelqu'un qui vient ému facilement, mais des fois, un bon chant qui parle de la grandeur de Dieu, puis je ne suis pas capable de le chanter, j'ai la gorge nouée, puis je réalise à quel point mon espérance est merveilleuse. Des fois, je peux lire le même psaume 4 fois dans le même matin, puis juste essuyer une larme parce que c'est beau. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, on doit être intentionnel, on doit activement rechercher à faire ça. Habacuc faisait ça, puis ça lui a bien servi. Puis une dernière application pour moi, c'est la célèbre citation « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Mais j'ai cette possibilité-là de rechercher confort en l'Éternel. J'ai cette espérance-là, cette foi-là, cet accès-là à Dieu. Mais c'est aussi important que je la partage avec ma famille, premièrement, avec mes garçons, avec tout le monde aussi, là. Mais moi, personnellement, avec mes garçons. J'ai extrêmement bénéficié du fait que mes parents ont fait ça avec nous, qui ont vécu leur foi en famille avec nous. Puis moi, je veux faire la même chose. Puis je veux enseigner à mes garçons que la foi, vivre par la foi, ce n'est pas une résignation passive ou une vision tunnel, mais vivre par la foi, c'est de rechercher à se réjouir en l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous justifie, et c'est lui qui nous fait persévérer en dépit des circonstances. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le début de ce chapitre-là commence par « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis il termine par « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vivre par la foi, c'est rechercher activement cette relation-là, cette proximité-là avec Dieu, parce que c'est comme ça qu'on goûte à l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu daignes dans ta grandeur prendre soin de nous. Aide-nous à vivre par la foi, aide-nous à te rechercher. Change mon cœur pour que je recherche mon plaisir en toi seul, ma joie en toi, mon réconfort en toi, et que ma foi repose sur toi et non pas sur des contrefaçons. Merci Éternel, parce qu'en dépit des circonstances, on sait qu'un jour, on va être dans ta présence parfaite pour l'éternité, là où il n'y aura plus de douleur, mais seulement la joie. Merci d'avoir fait de nous ton peuple. Aide-nous à cultiver cette relation-là avec toi et à rester émerveillés comme des enfants devant un magasin de bonbons. Aide-nous à rester émerveillés devant ta grâce et notre espérance. Amen.